Christelle Sabot, prise 2.
Burja Peco et Léonore.
Duplex Kylian.
Christelle Sabot.
Bonjour, nous venons du collège Honoré de Balzac et nous venons ici pour vous demander en quoi consiste votre métier pour les publics spécifiques.
Alors, je suis interprète en français et langue des signes française. Et on peut intervenir sur des publics spécifiques qui sont appelés comme ça au sein de la scène nationale dans des cadres d'accessibilité culturelle, mais c'est qu'une toute petite partie de mon travail. Moi, j'interviens plutôt au quotidien, un peu partout dans la vie des sourds, en fait, que ce soit des particuliers sourds qui ont des rendez-vous chez un médecin, chez un banquier, une réunion parents-prof où j'y vais pour traduire les échanges. Ça peut être des sourds qui travaillent dans des entreprises où là, je vais traduire des réunions, des formations, des entretiens. Ça peut être des rendez-vous à l'hôpital, au tribunal, commissariat, un peu dans tous les endroits de la vie quotidienne, en fait, où il y a une personne sourde qui communique en langue des signes qui se retrouve à être en communication avec une personne entendante qui ne communique pas en langue des signes. Je traduis d'une langue à l'autre comme je traduirais finalement n'importe quelle autre langue, mais moi j'ai choisi la langue des signes.
Depuis quand faites-vous ce métier et qu'est-ce qui vous a motivé à le faire ?
Alors, j'ai eu mon diplôme en 2012. Donc c'est un master de traduction que j'ai fait à Toulouse, à l'université Jean Jaurès. Donc ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille. Et j'ai fait ce métier un peu par hasard. J'avais fait un bac scientifique. J'ai fait des études de commerce ensuite. Et puis je voulais faire de l'équithérapie et voilà, entre deux concours à passer, je me suis dit, si j'apprenais la langue des signes. Et donc, j'ai fait une formation de langue des signes de 6 mois. Et après ça, je suis rentrée en 3e année de licence et j'ai fait mes 2 ans de master ensuite pour être diplômée en 2012.
Depuis quand travaillez-vous avec la SNA et avec quelle autre structure travaillez-vous ?
Avec la SNA, je ne voudrais pas dire de bêtises. Je pense que ça fait peut-être 4 ans maintenant. Qu'on travaille en partenariat. On travaille essentiellement nous sur des situations d'interprétation comme les présentations de saison ou des visites du théâtre qui sont rendues accessibles. Et ensuite, tu me demandais s'il y avait d'autres partenaires culturels, c'est ça ? Sur le département, il n'y a que la SNA qui a souhaité entrer dans cette démarche d'accessibilité pour le public sourd.
Et je voudrais revenir sur... vous avez parlé de la langue des signes française. Et est-ce que vous savez traduire dans de la langue des signes étrangère ?
Non, je maîtrise que la langue des signes française. C'est souvent une question qu'on pose, la langue des signes n'est pas internationale. Chaque pays a sa langue des signes, tout comme nous, chaque pays a sa langue vocale. Une langue, ça se construit autour d'une culture et d'une façon de voir les choses. Et donc, forcément, un sourd français ne communique pas, ne voit pas le monde et donc ne communique pas de la même façon qu'un sourd d'un autre pays. Donc moi, je connais que la langue des signes française.
Est-ce que vous savez s'il y a beaucoup de différences entre la langue des signes française et, par exemple, une autre langue des signes européenne ?
La langue des signes anglaise est très différente. C'est la BSL, British Sign Language. Très différente de la langue des signes française. Je ne maîtrise pas bien les autres langues des signes. Je crois qu'il y a quelques similitudes. La langue des signes française est assez proche de la langue des signes américaine. Parce que c'est notamment les Français qui ont amené cette forme de communication aux États-Unis, qui après s'est très vite développée aux États-Unis et qui a eu un certain ralentissement en France, parce que la langue des signes a été interdite en France pendant plus de 100 ans, donc à partir des années de 1880 jusqu'à 1980, officiellement 90, la langue des signes était interdite, donc les enfants sourds n'avaient pas le droit de l'apprendre, n'avaient pas le droit de communiquer en langue des signes. Donc à ce moment-là, la langue a un peu subi une période de répression et en tout cas un ralentissement dans son développement, qui s'est continué aux États-Unis. Donc l'accessibilité aux États-Unis n'a rien à voir avec celle qu'il y a ici. Mais voilà, la langue des signes américaine se rapproche pas mal de la langue des signes française.
Et dans votre enfance, vous n'aviez jamais songé donc à faire le métier que vous faites actuellement. Ça vous est venu presque par hasard.
Oui, exactement. C'est par hasard. Non, j'avais jamais pensé. J'ai pas de personnes sourdes dans ma famille. J'avais pas d'amis sourds. Ma collègue Katia, avec qui je travaille, elle et ses parents sont sourds. Donc c'est une autre démarche. Mais moi, j'avais pas de. Voilà, c'est venu par hasard, effectivement.
Savez-vous pourquoi la langue des signes a été interdite pendant 100 ans ?
Oui. À l'époque, les enfants sourds, ils étaient surtout scolarisés dans des établissements spécialisés. Ils n'étaient pas dans des écoles avec les enfants entendants. Et puis, c'était souvent des établissements spécialisés qui étaient gérés par des congrégations religieuses. Et en 1880, il y a eu ce qu'on appelle le congrès de Milan. Donc il y a tout un tas de responsables de ces structures qui se sont retrouvés à Milan, en Italie, et qui ont décidé que finalement, la langue des signes n'était pas belle à voir. Certains disaient qu'un sourd qui communiquait en langue des signes ressemblait à un singe. Et donc ils ont voulu essayer de faire en sorte que les sourds arrêtent de la pratiquer et qu'ils apprennent à parler. Donc on a interdit les sourds de communiquer. Moi, je connais des personnes sourdes âgées qui sont encore ici à Albi, qui ont vécu cette interdiction-là. C'est-à-dire qu'à l'école, ils n'avaient pas le droit de communiquer en langue des signes. S'ils se faisaient prendre en train de le faire, ils se faisaient punir, les mains attachées dans le dos, jusqu'à ce qu'on les libère. Et voilà, on leur faisait faire des heures et des heures d'orthophonie pour essayer d'apprendre à prononcer des sons qu'ils n'entendent pas. Donc du coup, c'est des exercices qui sont très compliqués pour des résultats en général pas très satisfaisants. Mais voilà, c'était un peu une volonté de tout mettre sur la même norme. En tout cas, voilà, de faire en sorte que les sourds soient pas trop voyants et pas trop gênants, quoi.
Et revenons sur votre partenariat avec la scène nationale d'Albi. Donc, vous nous avez dit que ça fait 4 ans que vous. Environ 4 ans que vous êtes partenaire avec la scène nationale. Et donc, que faites-vous lors de ce partenariat ? Vous faites des traductions de spectacles, des présentations Pouvez-vous nous en dire plus ?
Alors, on travaille essentiellement, donc, comme je disais tout à l'heure, sur l'activité de la présentation de saison. Donc là, ça doit se faire dans les mois qui viennent, où y a une cérémonie de présentation de tous les spectacles de la saison à venir. Donc, on rend accessible cette cérémonie-là. On peut traduire des visites du théâtre qui sont organisées par la scène nationale. Et on intervient aussi sur le cinéma de la scène nationale. La scène nationale d'Albi, elle fait le choix de présenter assez régulièrement des films français sous-titrés, parce que c'est très rare d'avoir des films français sous-titrés au cinéma, mais donc du coup, les sourds n'ont pas accès à ces films-là. Donc la scène nationale a fait le choix de projeter régulièrement des films français sous-titrés. Et à l'issue de ces films, en général, il organisait un échange, un débat entre les spectateurs, parfois avec des invités, des réalisateurs ou des comédiens. Et dans ce cadre-là, on intervient pour traduire les échanges de fin de séance. Et on traduit aussi en amont, on fait des petites vidéos de présentation, on fait des petites vidéos en langue des signes qu'on diffuse sur les réseaux sociaux pour informer de l'événement, de l'accessibilité d'une séance et du coup attirer le plus de public possible.
Et est-ce que vous faites des traductions particulièrement pour... un public jeune, par exemple des enfants sourds, est-ce que vous avez souvent affaire à des jeunes ou pas ?
Alors, dans le cadre de la SNA, je crois qu'on a pu traduire des visites. Après, les personnes qui se rendent aux événements accessibles, c'est essentiellement des personnes adultes. Ça peut s'expliquer notamment par le fait que les jeunes sourds qui sont à Albi, il y a des jeunes sourds qui sont scolarisés dans le Bon Sauveur. Il y a ce qu'on appelle un CESDA, Centre Spécialisé pour Déficients Auditifs, Et ces jeunes sourds, ils sont la plupart en tout cas sont en internat la semaine, donc ils peuvent pas trop sortir, participer à un spectacle ou autre. Et le week-end, ils rentrent chez leurs parents qui sont pas forcément dans la région. Donc on traduit pas très souvent pour un public jeune ici. Après, je reviens à la question précédente où tu me parlais d'accessibilité de spectacle. Nous, on ne fait pas directement la traduction d'un spectacle, par exemple, qui aurait déjà été créé et voilà, et on viendrait un jour pour le traduire. La traduction d'un spectacle, c'est plutôt de l'adaptation culturelle, d'adaptation linguistique, et c'est souvent un travail qui se fait en amont, soit au moment de la création du spectacle, déjà avec soit des comédiens sourds qui travaillent vraiment dans une troupe, qui sont intégrés dès la création du spectacle. Soit la pièce est déjà créée et après il y a un travail d'adaptation qui est fait par un comédien sourd ou par un interprète, toujours après avec présence d'un public sourd pour valider si culturellement, si visuellement tout est agréable. Mais nous on le fait pas directement. Ma collègue Katia a pu le faire pour une association qui s'appelle Accès Culture. C'est une association qui est basée à Paris et qui travaille sur l'accessibilité de pièces de théâtre, de spectacles pour les personnes sourdes, mais je crois qu'ils ont aussi un volet pour les personnes aveugles ou déficientes visuelles.
Bien, je pense que nous avons assez fait le tour de votre profession. Est-ce que vous avez des choses à ajouter particulièrement, à nous communiquer, que vous aimeriez partager ou non ?
Peut-être juste pour conclure, comme vous travaillez sur l'accessibilité, là, dans le lieu culturel, voilà, il faut pas oublier que la surdité, c'est une particularité qui se voit pas. Une personne qui a des difficultés motrices, on va le remarquer. Une personne aveugle, on va le remarquer. Une personne sourde, tant qu'on rentre pas en communication avec elle, on le voit pas. Et donc, du coup, dans les démarches d'accessibilité politique, publique, la surdité est souvent mise à l'écart. Ça va être beaucoup plus gênant pour le grand public de voir une personne en fauteuil roulant face à un escalier et du coup de se rendre compte de l'inaccessibilité de certains bâtiments qu'une personne sourde qui a du mal à communiquer peut-être avec un médecin urgentiste ou accéder à une salle de spectacle. Donc voilà, je pense que c'est important dans les démarches d'accessibilité de ne pas oublier aussi le public sourd et voilà, au même titre que toutes les autres personnes en situation de handicap.
D'accord. Merci beaucoup. Vous nous avez beaucoup aidés. Merci.